Patrick Cady, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonne année 2016 à vous.
Merci à vous aussi.
Patrick Cady, j'ai envie de démarrer cette entrevue avec une citation d'une dame que j'aime beaucoup, Rosemarie Charest, anciennement présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, qui disait que la psychothérapie, c'est efficace. Et parce que c'est efficace, ça peut être dangereux, d'où l'importance qu'elle soit pratiquée par des professionnels compétents. Ça m'amène d'entrée de jeu à vous poser cette question. Comment on choisit notre psychothérapeute?
Alors, comment on le choisit? Mais la première chose, c'est de vérifier qu'il a bien lui-même suivi la démarche qu'il vous propose de faire. Parce que si lui ne s'est pas mis dans la position du client ou du patient pour faire cette démarche-là, il l'a seulement appris dans les livres ou en tout cas dans la théorie. Et il ne sait pas vraiment dans quoi il vous embarque. Et ça, je crois que c'est le premier critère. C'est que lui-même ait suivi cette forme de psychothérapie qu'il vous propose. Mm-hmm. Bon, et je crois que c'est au cœur de sa formation et qu'on peut lui demander ça. Il faut lui demander ça. Et puis ensuite, j'irais se méfier du choix par ressemblance. Les gens ont tendance à dire « Ah,
ouais.
Si j'ai une femme, je vais prendre une femme, la même ethnie, la même culture, etc. On va mieux se comprendre ». Je suis pas sûr de ça du tout. D'abord parce que ça peut être un évitement. Une femme qui dit ah ben, je vais pas aller trouver un homme, j'ai peur des hommes. Oui, mais justement, vous allez continuer à être dans l'évitement si vous faites ça. Bien sûr que oui, au début, la parole va être plus facile, mais ça peut être tout à fait une illusion. Bon, parce que vous aurez finalement, dès le départ, fui cette confrontation. Et puis aussi parce que quelqu'un qui vous ressemble trop dans ce qui le compose risque de vous entraîner davantage dans une complicité de censure ou de blocage.
Ouais.
Enfin, le dernier critère, c'est le tact dont la personne psy fait preuve vis-à-vis de vous dès le premier entretien. C'est-à-dire essayer de surveiller pour voir si c'est important que le psy ne soit ni familier, ni rigide, bien sûr, qu'il soit attentif à vous, à votre sensibilité, à votre état, mais sans chercher à être consolant et surtout pas infantilisant. Des psys qui vous disent « Oh, ma pauvre petite fille, oh, mon pauvre petit garçon », alors que vous êtes plus qu'adulte et vacciné, je crois que là, il faut un peu fuir ce genre de choses.
Patrick Cady, vous avez dit un déclencheur pour moi, vous avez utilisé le mot « facile » et de ce que j'ai compris de votre livre « Comment aider votre psy à réussir votre psychothérapie », une thérapie, ce n'est pas nécessairement facile, ça ne devrait pas l'être parce que ça demande un engagement de soi. On doit se mouiller un peu.
Oui, il faut... je crois que c'est normal au départ qu'on arrive avec une plus ou moins, suivant les personnes, une certaine dose de passivité parce qu'on a appris ça dans tout le milieu soignant. Vis-à-vis des médecins notamment, on nous a appris ça, à être passif, à être bien obéissant. Avec un psy, je crois qu'il faut essayer de sortir de ça, quitte à lui dire « bon, ben je sais que la passivité fait partie de mes difficultés d'être, de mes problèmes et je voudrais en parler ». Mais déjà en disant ça, vous prenez une initiative, l'initiative de la parole. Et je crois que prendre l'initiative, c'est quelque chose d'important. Le psy ne peut pas le faire à votre place. Il peut vous encourager à le faire, mais il ne peut pas le faire à votre place.
Et j'imagine que notre psy ne peut pas déterminer les objectifs pour nous, ne peut pas deviner nos attentes non plus. Là. Il faut arriver avec une certaine forme de préparation puis savoir un petit peu ce que l'on recherche dans cette rencontre-là.
Oui, je dirais dès la prise au téléphone du premier rendez-vous, essayez entre ce coup de téléphone puis la première séance ou d'autres, les premières rencontres, disons, d'être attentif à tout ce que ça suscite en vous d'émotions, mais aussi de rêves, essayez de les noter, ce que ça suscite aussi de mouvements de recul. Bah, finalement, j'ai pris rendez-vous, mais j'ai plus envie d'y aller. Essayez de voir, de noter à quoi ça peut être associé dans vos pensées. Et puis, parce que tout ça, tout ce qui forme des résistances, ça peut être extrêmement utile pour le travail.
Okay.
Je dirais, et puis ensuite, il s'agit avant tout d'établir un lien de confiance avec le psy ou la psy, et c'est difficile, c'est pas là encore, c'est pas quelque chose de facile pour reprendre votre mot, parce que c'est paradoxal, c'est qu'on s'apprête, on le sent, on s'apprête à dire des choses qu'on n'a jamais dit à personne, à quelqu'un dont on ignore tout.
Oui, voilà.
Et je crois qu'il faut accepter. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, ce lien de confiance, ben, ça peut commencer tout simplement par, je disais, parler des résistances. C'est-à-dire, tous les mouvements de méfiance que vous allez sentir, les pensées de méfiance que vous allez avoir, essayez de lui communiquer. Essayez de lui dire, et puis que vous puissiez voir ça avec lui, voir de quoi cette méfiance, elle est faite. Parce que la confiance, elle, quelquefois, il y a des... Il y a des contextes un peu miraculeux comme ça, où la confiance est là d'emblée comme un coup de foudre. Mais disons que ça veut dire que la méfiance va arriver un peu après. Mais la méfiance, elle est normale. C'est une réaction d'ailleurs tout à fait saine aussi, d'avoir une certaine méfiance alors qu'on s'apprête à confier des choses que souvent on n'a même pas confié à soi-même d'ailleurs. Oui. Et puis tout ça pour arriver à créer une alliance thérapeutique. Quand vous avez fait votre présentation, vous avez dit être un allié de son psy. Ça, c'est un mot-clé extrêmement important. Pouvoir créer une alliance, c'est-à-dire qu'il y a toujours une part de nous qui est l'ennemi de cette démarche, qui est l'ennemi du psy.
Oui.
Même si ennemi est peut-être un bien grand mot, mais quand même, il y a une part de nous qui cherche à rester dans la censure, qui ne veut pas se livrer. Et donc, il faut arriver à créer une alliance malgré cette part-là, malgré toutes ces résistances.
Oui. Il y a autre chose, Patrick Cady, qui est un petit peu contradictoire lors d'une rencontre avec une relation avec un psychothérapeute, c'est qu'il y a une personne devant nous qui, à un moment donné, suite à quelques séances, quelques rencontres, connaît tout de nous, mais à l'inverse, nous ne savons rien de cette personne. Bon, à part, bien sûr, quelques trucs plus professionnels. J'imagine que c'est ça aussi qui distingue la relation professionnelle de l'amitié. Cette relation-là entre notre psychothérapeute et nous, ben, c'est une relation qui a une nature bien propre. Ce n'est pas de l'amitié. À un moment donné, ça peut être un petit peu difficile aussi de se retrouver au cœur de cette relation-là.
Oui, il ne s'agit pas du tout que ce soit une relation d'amitié, même si elle peut être chaleureuse par moments, ça n'empêche pas, la froideur n'est pas spécialement thérapeutique, en tout cas sûrement pas si c'est quelque chose de constant. Mm-hmm. Mais c'est important parce qu'il y a une part de ce lien qu'on développe qui est une part imaginaire, c'est-à-dire qu'on reporte sur le psy des choses comme, par exemple, mettons vous avez eu une mère qui fouillait dans votre journal intime. Mm-hmm. Bon, or là, le psy, en plus si c'est une psy, encore plus facilement, vous risquez de projeter sur elle cette figure-là, mm-hmm. et d'imaginer qu'elle est encore cette mère fouilleuse, alors que c'est vous qui êtes dans la demande. C'est important là que la psy à ce moment-là, dans ce contexte-là, si elle sait ça. Ne pose pas trop de questions, ne cherche pas justement à apparaître comme celle qui fouille. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose de très important. Mais ça n'empêche que l'imaginaire, ben, c'est quelque chose de puissant et qu'il va y avoir une méfiance qui va être issue de ça. Ou alors une méfiance ou une sorte de complicité un peu noire, un peu masochiste, où finalement on a eu, parce que quand on a eu une mère qui a fouillé dans nos affaires, en même temps, curieux, ça nous a blessés, ça nous a fait mal, mais en même temps, bizarrement, de façon tordue, ça nous valorisait.
Ouais.
Ah, mais donc, notre mère s'intéresse à ce point-là à nous. Et c'est quelque chose qui peut être extrêmement attirant. Mais du coup, à ce moment-là, ça veut dire qu'on se met plus, si on entre là-dedans, dans cette répétition névrotique-là, on n'est plus dans le travail.
Ouais. Mais ça doit être difficile à saisir cette nuance-là, à savoir est-ce que je suis dans le travail, est-ce que je suis dans le bon travail, est-ce que je manipule ou pas mon information, hein? Parce que parfois on se livre, mais on se livre bien comme on le veut. Hein? Est-ce que notre psychologue d'abord, Patrick Cady, peut nous aider à être bien dirigé, mais nous, est-ce qu'on a un travail à faire par rapport à ça?
Oui, je crois qu'il faut... Il faut jamais hésiter, là encore une fois, du côté de la méfiance, du côté aussi de critiques qui peuvent être, ou de soupçons qui peuvent être légitimes, lui dire là, vous avez interprété ça comme ça, vous avez réagi comme ça, mais ça m'interroge, ça me pose telle question. Il faut pas garder ça pour soi. C'est important de lui dire ce qu'on éprouve d'éventuellement négatif vis-à-vis de lui. Et même si c'est pas quelque chose de fort comme de la haine ou autre, même si c'est juste comme ça un soupçon, ça n'empêche qu'il faut le partager avec lui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce sujet? Oui, c'est aussi toujours, c'est un travail de parole. Or, la parole, ça peut quelquefois devenir de l'agir. Si par exemple, vous vous mettez à insulter quelqu'un, c'est plus de la parole, c'est plus parler, c'est agir. Une insulte, c'est un acte.
Oui.
Je crois que quand il peut arriver à certaines séances que vous vous mettiez à hurler en revivant telle ou telle scène dans votre imaginaire avec le psy, ou parce que le psy a peut-être fait quelque chose, a été trop rapide dans une intervention, trop brutale, bref. Mais il faut essayer de rester attentif à ça, mais le psy va le faire, hein, c'est son travail, de vous dire là vous êtes en train de hurler, vous n'êtes pas en train de parler, oui. Donc vous êtes en train d'agir.
Oui. Il y a plusieurs passages dans votre livre qui m'ont interpellée, notamment lorsque vous donnez des exemples. Il y a aussi un passage qui nous invite à aller au-delà des apparences et que ça peut aller jusque dans les petits détails, c'est-à-dire de ne pas juger la décoration du cabinet de son psychologue. Psychanalyste, psychothérapeute, ça peut révéler des choses de lui et pas nécessairement, et d'aller au-delà. Donc, j'imagine qu'il y a un conseil d'aller au-delà des apparences, de rester dans l'ouverture.
Oui, je pense que trop souvent, on fait comme si tout notre environnement ne comptait pas. Comme si on se rencontrait, comme si vous et le psy vous rencontriez sur un nuage, dans quelque chose comme ça de complètement éthéré. Bon, je sais qu'il y a des psys qui essayent de créer comme ça des bureaux où les murs sont blancs, vides, où il y a deux chaises et un bureau. Bon, s'ils sont à l'aise là-dedans, pourquoi pas? Parce que ce qui compte, c'est est-ce que le psy, ce qui va compter pour vous qui venez le voir, c'est est-ce que votre psy, lui, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est confortable dans l'environnement qu'il s'est choisi, qu'il s'est donné? Parce que si le psy a cru bien faire en pensant que c'était... ça correspondait à certains critères de professionnalisme qui se retrouvent avec des murs vides qui l'angoissent totalement, évidemment que vous, ça va vous angoisser.
Oui.
C'est sûr, parce qu'on crée un lien avec le psy qui tend, et c'est nécessaire, qui tend à créer une osmose comme ça. On devient perméable l'un à l'autre. Et il faut que ça le soit. Mais évidemment que, du coup, c'est aussi les angoisses qui passent, et qui passent de part et d'autre. C'est pas simplement vos angoisses qui vont aller toucher le psy. Mais c'est, si jamais le psy a des angoisses ou des inconforts, ça va venir vous perturber, vous.
Oui.
Donc, c'est pas tel ou tel décor, c'est est-ce que le psy, il a vraiment choisi ça parce que ça correspond à lui? Et ça, c'est important.
Et si ça correspond à lui, est-ce que ça résonne en moi aussi par la suite? Je pense que ça amène là la réflexion.
Oui, tout à fait. Parce qu'on est dans un travail de parole, on pense que tout va se jouer dans un univers purement sonore. Non, pas du tout. Regardez l'expérience du rêve. Quand on rêve, ce sont des images. Oui, il y a du son, il peut y avoir des paroles, mais avant tout, c'est visuel. Et je crois que c'est extrêmement important que, puisqu'on est attentif à cette expérience visuelle du rêve, il faut rester attentif à l'expérience visuelle de notre vie. Et Dieu sait que l'environnement visuel dans lequel on rencontre, dans lequel vous rencontrez votre psy, il peut avoir une certaine influence et il faut en parler. Ça peut être tout à fait c'est toujours inspirant si ça vient vous toucher et si vous arrivez à en parler.
Oui. Tout à l'heure, Patrick Addy, vous disiez que l'attitude d'un psy qui serait peut-être un peu... qui encouragerait la plainte, qui dirait « Ah, pauvre toi », ne serait peut-être pas tout à fait adéquate. Moi, ça me ramène à l'espèce de souffrance. Aimer souffrir, aimer parler de sa souffrance, aimer se contempler dans la souffrance. Mais on aime ça des fois. Ça nous fait du bien. Est-ce que c'est un processus qui est, disons, entre guillemets, normal d'aimer notre souffrance et de s'y complaire? Et pourquoi on aime ça autant?
Alors, il y a deux choses dans votre question. Il y a celle de la plainte. Je commence par la plainte.
Oui,
on a une sorte de plaisir peut-être douloureux, de plaisir un peu noir, à se plaindre. Une sorte de jouissance à se plaindre. Mais on a besoin aussi de ça, de faire entendre sa plainte, parce que c'est aussi c'est pas seulement une plainte, c'est faire entendre une détresse.
Oui. Mm-hmm.
C'est les deux. Et la détresse et la plainte, c'est pas la même chose. La plainte elle-même, elle a toujours quelque chose de plus ou moins agressif. Mais en même temps, c'est une agressivité qui est aussi un appel.
Ouais.
Donc il faut, ça c'est une question de tact pour le psy, c'est à la fois donner de la place à la plainte, accepter de recevoir cette plainte, mais aussi ne jamais oublier qu'on est là pour aider la personne à sortir de sa plainte, qui est toujours quelque chose d'incroyablement répétitif, de complètement bloquant pour le travail. Et ça, c'est, je vous dis encore une fois, c'est une question de tact. Il faut que la personne, il faut que vous vous sentiez reçu, accepté, écouté dans votre plainte par votre psy, et que ils parviennent à vous faire entendre que dans votre plainte, il y a quelque chose d'autre, ben, qu'il y a une détresse, par exemple, et de vous intéresser plus à votre détresse qu'à votre plainte, mm-hmm. à votre souffrance qu'à votre plainte. Alors, cette souffrance, c'est le deuxième point de votre question, comment se fait-il qu'on puisse être attaché à ce qui nous fait souffrir ?
Ouais.
Là, c'est une question qui est vraiment complexe. Je peux donner juste comme ça quelques éléments. C'est que dans ce qui nous fait souffrir, c'est toujours quelque chose qui se répète, qui est malheureux, mais en même temps qui nous hypnotise, on pourrait dire. Alors, on pourrait prendre l'image de, vous savez, sur une pente, quand il pleut, l'eau va descendre sur va suivre comme ça tous les petits reliefs déjà creusés, les frayages déjà installés sur la pente.
Oui.
Eh bien, en nous, c'est quelque chose qui est du même ordre, c'est-à-dire que tout ce que la souffrance, les traumatismes ont pu creuser comme ça, notre énergie a tendance à suivre ce qui est déjà creusé, à suivre ces mêmes voies mm-hmm. et à nous entraîner dans des répétitions. Il y a ça. Il y a le fait aussi que, par exemple, je prends une femme qui répète un choix amoureux, un choix d'objet amoureux, un choix d'homme, qui la rend tout le temps malheureuse. Il tombe sans arrêt sur... Elle dit qu'elle tombe, mais en fait, elle ne sait pas qu'elle choisit
ouais.
un homme qui va l'abuser, qui va être violent, qui va être... qui va la dénigrer, complètement la dévaloriser. Et puis, on va s'apercevoir que, effectivement, quand elle était enfant, elle avait un père qui était comme ça avec elle. Mais ça paraît très étrange. On pourrait dire, mais elle devrait au contraire avoir appris quelque chose et puis choisir.
Mais le sillon s'est créé. Ouais.
Mais il y a eu, parce que dans l'enfance, l'enfant a besoin d'aimer son parent. Et aimer et idéaliser pour l'enfant, c'est la même chose. C'est
ouais.
exactement la même chose. Et donc, ce père qui avait des côtés monstrueux, qui n'avait peut-être pas que ça d'ailleurs, mais qui avait comme ça des côtés très, très abuseurs, en fait, ce père, il a été aimé, il a été idéalisé. Et elle continue de chercher désespérément le prince charmant.
L'objet de son amour, quoi.
dans le bum, quoi.
Patrick a dit, évidemment, le temps file et on doit se laisser. Je pense qu'on aurait pu faire toute une émission que basée sur cette question, notre amour de la souffrance. En terminant, en trois mots, si c'est possible, c'est quoi une psychothérapie réussie?
Une psychothérapie réussie, il faut pas se fier pour ça, il faut pas se fier uniquement à la disparition du symptôme. Par exemple, dépendance à l'alcool, oui, il y a des groupes, les A par exemple, oui, ils ont des réussites dans beaucoup de cas de suspension de la consommation, mais on se rend compte quand on reçoit des gens dans les A en psychothérapie que la dépendance est mise ailleurs.
Ah.
Et donc, il faut absolument essayer de défaire le mécanisme qui est sous-jacent aux symptômes, c'est là en l'occurrence le mécanisme de la dépendance. Et je crois que c'est faire que les gens puissent ne plus répéter
les mêmes schémas,
ne plus répéter ce qui les rend malheureux et ce qui les emprisonne. Mmh.
Patrick Addy, vous êtes l'auteur de Comment aider votre psy à réussir votre psychothérapie. Également, vous êtes psychanalyste et conférencier. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.